VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à Libreville, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique centrale. RDC, des hélicoptères d'attaque de la MONUSCO, la mission de l'ONU sur place, sont engagés depuis hier contre les rebelles ougandais de l'Alliance des Forces démocratiques et alliées, ADF, dans la province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Selon un responsable de la MONUSCO, cette opération matérialise la reprise de la coopération avec les FRDC, l'armée congolaise. Jacques Aristide.
Les hélicoptères de combat onusiens ont infligé des pertes dans les rangs des rebelles ADF, d'après le général Jean Bayeux, commandant adjoint des casques bleus en RD Congo. Quant au lieutenant Marc Azouké des FRDC, il a précisé à l'AFP que ces hélicoptères ont pu attaquer les rebelles ADF dans les profondeurs de Semuliki, un village proche de la frontière avec l'Ouganda au nord-est de Goma. Rebelles musulmans opposés au président ougandais Yoweri Museveni, les ADF sont présents depuis 1995 dans l'est congolais où ils sont accusés de violations graves des droits de l'homme et de se livrer à un juteux trafic de bois. La MONUSCO avait suspendu son appui au FRDC l'an dernier après que deux généraux congolais avaient été accusés de graves violations des droits de l'homme. Mais la visite à Kinshasa du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon en février dernier a abouti à la reprise de la coopération militaire visant en priorité les rebelles rwandais des FDLR et ceux des ADF.
Crise au Burundi, un collectif d'avocats a saisi la Cour pénale internationale et le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme au nom des dizaines de familles de victimes d'exécutions extrajudiciaires au Burundi. Selon un communiqué des trois avocats en question, qui affirment être mandatés par 60 familles burundaises sur place dans leur pays. Pendant des mois, des membres de l'appareil d'État burundais ont assassiné des citoyens en totale impunité. La motivation des familles est de lutter contre cette impunité et d'amener un jour devant les cours et les tribunaux les personnes qui ont participé à ces crimes, quelle que soit leur position actuellement dans l'appareil d'État, souligne le collectif qui comprend Maître Armel Niyongere, avocat au barreau du Burundi et grande figure de la société civile burundaise aujourd'hui en exil, Maître Léon Faust, avocat au barreau de Paris, et Maître Bernard Menguin, avocat au barreau de Bruxelles, très engagé dans de nombreux dossiers politiques au Burundi. Côté gouvernement, Bujumbura nie les cas d'exécution extrajudiciaire, accusant une partie de l'opposition désormais armée d'être à l'origine de ces exactions. Toujours concernant la crise au Burundi, des jeunes ont reconnu à la télévision nationale avoir tué des sœurs italiennes et enterré des personnes dans des fosses communes. Ils affirment aussi être de mèche avec les opposants et ils disent avoir opéré dans les quartiers contestataires de Bujumbura, opposés au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, réélu en juillet dernier. Mais côté opposition, on parle de manipulation politique. Le reportage de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Clovis Kwizera, alias Désiré, témoigne à la radio-télévision nationale burundaise qu'ils étaient un groupe de 4 personnes avec un chauffeur quand ils sont partis tuer les sœurs de Kamenge. Ils avaient fait plusieurs réunions dans certains quartiers contestataires avant d'aller faire leur sale besogne à Kamenge en 2014. Mais les opposants au régime de Bujumbura indiquent que c'est un montage pur et simple organisé par le pouvoir car ce sont des gens proches du pouvoir qui ont commis cet acte ignoble. Pour la ministre burundaise de la Justice, Laurentine Kenyana, il y a plusieurs manières de faire des enquêtes.
La population burundaise et la communauté internationale qui nous écoute doivent comprendre que nous sommes à une étape où tous les éléments qui peuvent nous renseigner sur l'auteur du crime doivent être réunis. Mais jusqu'à présent, on ne peut pas confirmer qu'il s'agit de telle ou telle autre personne. Attendons la décision du juge qui sera saisi pour le cas. Moi, je suis convaincue que tous les éléments n'ont pas été dévoilés. Ce qui fait que celui qui est en train de faire l'instruction du dossier a jugé que les informations qui sont en train d'être diffusées ne vont en rien entraver le cours de la procédure d'enquête.
Pour l'avocat Fabien Segatois, ces jeunes qui font des aveux peuvent le faire en étant en prison car ils sont très dangereux.
Ces gens-là qui ont avoué avoir commis de tels crimes ignobles, j'insiste bien sur le crime ignoble, puissent se promener dans les rues uniquement en vertu du principe de rechercher la vérité. On peut donner la vérité même si on se trouve en prison. Et généralement, ailleurs, les gens qui passent aux aveux, ce sont des gens qui sont incarcérés, mais qui avouent leur peine. Alors, avouer la peine, ça veut dire donner les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et donner les complices, les noms des complices et leurs identités complètes et pour permettre justement à ce qu'on puisse retrouver les auteurs de ces crimes. Et il ne suffit pas de dire j'ai commis une infraction, j'ai tué une sœur et ça suffit, non. Mais ces gens dangereux, il faut quand même qu'ils soient incarcérés parce que ce sont des gens dangereux.
Ces jeunes qui font des aveux devaient voir la peine maximale de perpétuité réduite à 20 ans de prison selon l'avocat Ségatoire qui indique que les autres peines doivent être divisées de moitié. La ministre de la Justice, Laurentine Kayana, indique que tous les jeunes arrêtés dans les attaques violentes ont été relâchés et que les autres jeunes arrêtés pendant les manifestations seront libres très prochainement. Mais des organisations de la société civile affirment que les manifestants croupissent toujours dans les différentes géoles du Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Bénin, la Cour constitutionnelle a officiellement validé aujourd'hui la victoire du candidat d'opposition Patrice Talon sur le Premier ministre sortant Lionel Zinzou au second tour de la présidentielle du 20 mars. L'investiture du nouveau président élu à la tête de l'État est prévue le 6 avril. Le Bénin a été le premier État d'Afrique francophone à avoir entamé une transition démocratique au début des années 1990. Nigeria, la justice nigériane a épinglé plus de 300 sociétés et individus dont des responsables militaires pour avoir détourné plusieurs dizaines de millions de dollars grâce à des contrats fictifs. C'est ce qu'a annoncé la présidence nigériane dans la nuit de jeudi à vendredi. Cette affaire de corruption est liée à Sambo Dasuki, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de l'ex-président Goodluck Jonathan, qui a servi de juin 2012 jusqu'à son limogeage l'année dernière par l'actuel chef de l'État Muhammadu Buhari. M. Dasuki est au centre d'un vaste scandale de détournement de fonds, initialement destiné aux forces armées pour lutter contre le groupe islamiste Boko Haram et qui aurait plutôt servi au Parti démocratique populaire PDP, la formation de l'ex-président Goodluck Jonathan, pour financer sa campagne de réélection. Les ministres de la Défense et les représentants des 28 pays de la CENSAD, la communauté des États sahélo-sahariens, dont font partie notamment la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad, ont convenu aujourd'hui de renforcer leur coopération en matière de lutte antiterroriste à la fin d'une réunion de deux jours à Sharm el-Sheikh, la station balnéaire du Sinaï en Égypte. La résolution en ce sens, qui sera soumise au président des États membres, met l'accent sur un partage des renseignements et l'établissement de patrouilles conjointes aux frontières. Souligné le ministre égyptien de la Défense, Sebdi Sobhi. Il a ajouté que les participants ont aussi convenu de mettre en place un centre antiterroriste basé au Caire. Plusieurs pays membres de la CENSAD sont confrontés aux violences des djihadistes qui ont même pris le contrôle de certaines régions dans des pays comme la Libye. Le terrorisme ignore les frontières, aucun État ne peut s'en prémunir seul, il faut des réponses coordonnées et concertées, avait déclaré hier le Nigérien Ibrahim Sani Abani, secrétaire général de la CENSAD. Crise en Libye maintenant, les autorités au pouvoir à Tripoli ont décrété aujourd'hui à l'aube l'état d'urgence maximale dans la capitale libyenne, exprimant ainsi leur rejet du projet de gouvernement d'Union nationale de s'installer prochainement à Tripoli. Les précisions de John Lyndon.
Les rues de Tripoli étaient cependant calmes en matinée et aucun signe de déploiement des forces de sécurité plus important que d'habitude n'était à signaler, selon un photographe de l'AFP. Le gouvernement d'Union nationale, parrainé par l'ONU et dirigé par Fayez al-Sarraj, a annoncé mardi sa volonté de s'installer à Tripoli dans les tout prochains jours. Il est censé mettre fin au conflit qui oppose les deux gouvernements rivaux, siégeant l'un à Tripoli, appuyé par une coalition des milices, et l'autre dans l'Est, soutenu par le Parlement élu. Mais ces autorités rivales ont rejeté ce troisième gouvernement, aggravant une situation déjà chaotique dans un pays où croît de jour en jour la menace djihadiste. Des informations sur la présence à Tripoli des quatre membres du gouvernement d'Union et l'arrivée dans la nuit de M. Sarraj ont circulé sur les réseaux sociaux, mais aucune confirmation n'était possible dans l'immédiat.
Et pour terminer les attentats de Bruxelles, le secrétaire d'État américain John Kerry est à Bruxelles pour présenter ses condoléances et les condoléances des États-Unis aussi à la Belgique, secouée par les attentats qui ont fait 31 morts et 300 blessés mardi. « Je suis bruxellois », a dit aujourd'hui le chef de la diplomatie américaine lors d'une conférence de presse aux côtés du Premier ministre belge Charles Michel. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.